vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais
me tronche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
J'ai les pipes d'écume ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Chers auditeurs de Tranche de Vie, c'est une exposition originale qui se déroule à l'heure actuelle au Château des Isards, où Jean-Claude Nouard, peintre plasticien, qui revendique de mettre l'art au service de la nature, expose de nombreuses œuvres qui ont en commun d'être inspirées par le monde végétal. Monsieur Nouard, Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous allez pouvoir décrypter un petit peu pour nos auditeurs tous ces tableaux que vous exposez ici à la galerie du Château des Isards, des tableaux, mais aussi quelques sculptures. Comment vous est venue l'inspiration de ces tableaux? Dites-nous un petit peu d'où vous tirez votre inspiration.
Ben, globalement, j'ai été technicien des eaux et forêts pendant 40 ans en Dordogne. Et donc, c'est un petit peu ce qui m'a fait apprendre à connaître et à aimer la forêt en général et les arbres en particulier. Et étant pastelliste de formation, donc je me suis un petit peu épris de ce sujet-là, car il était relativement inépuisable par la quantité d'essence qu'on a dans notre département. Et donc, je me suis attaché à travailler sur ce thème de l'arbre et son écorce. Et aujourd'hui, la spécificité de mon travail, au-delà de la thématique, c'est surtout la technique, puisque je travaille uniquement avec des médiums naturels. Donc je n'ai pas de peinture, pas d'acrylique, pas d'aquarelle, ni rien. Je prends des pigments ou des terres brutes. Et je travaille par superposition d'empreintes, c'est-à-dire qu'en fait, mes pinceaux sont des écorces d'arbres.
Alors, lorsque vous étiez pastelliste, vous étiez un artiste amateur. Et vous puisiez aussi votre inspiration dans la nature?
Ben, je travaillais beaucoup, puisque les pastellistes sont des gens quand même qui travaillent sur des sujets très particuliers. C'est souvent le paysage, etc. Donc le portrait, il s'attache vraiment à des choses très, très pragmatiques. Donc j'ai commencé effectivement par faire des paysages, des natures mortes, des choses d'un classicisme tel que le pastel le nécessite. Et puis le pastel, c'est quoi? Ce sont des pigments qui sont agglomérés par de la matière. C'est une craie un petit peu. Et donc un jour, je me suis, en travaillant le pastel, j'ai écrasé cette craie et j'en ai fait de la poudre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce dont je me sers aujourd'hui, c'est ce pigment-là. J'ai trouvé que le pigment était plus intéressant à travailler que la craie en tant que telle.
Vous avez parlé d'un art figuratif à vos débuts, quand vous étiez un amateur. Et comment êtes-vous passé de la figuration pure et simple à l'abstraction que représentent ces empreintes d'écorce?
Le problème, c'est que moi, je ne considère pas que je fais de l'abstrait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'explique toujours aux gens que quand on voit une forêt de loin, on voit que c'est une forêt. Quand on se rapproche, on voit des arbres. Et quand on se rapproche très près de l'arbre, on voit l'écorce. Mais quand on fait un petit focus sur un tout petit morceau d'écorce, en fait, on a cette espèce de partie très abstraite que moi, je représente sur ma toile. Mais pour moi, ça part de quelque chose de départ qui est figuratif. Donc, je ne suis pas en abstraction. C'est-à-dire que moi, quand je commence une toile par rapport à ce que je compte en faire, c'est-à-dire une représentation que les gens qualifient d'abstraite d'une écorce, pour moi, ce n'est pas abstrait parce que je pars d'une idée de départ. Alors que l'abstraction pure, on part plus sur un sentiment, etc. Moi, je pars sur quelque chose qui, dans ma mémoire, est quelque chose de vraiment concret. Et après, j'en fais quelque chose qui, effectivement, revêt un aspect abstrait. Mais pour moi, je ne fais pas de l'abstrait. Je fais du non-figuratif.
Mais pour vous, qui êtes un ancien technicien donc forestier, auteur d'un livre, d'ailleurs, sur la forêt française, là, qui est exposée aussi avec vos peintures, Ça veut dire que tous ces tableaux représentent des écorces d'espèces qui vous sont familières. Vous pouvez, en regardant un de vos tableaux, dire « ça, c'est du pin, ça, c'est du chêne, ça, c'est du charme ».
Non, je le travaille avec des écorces de chêne, etc. En général, je ne prends pas de pin, je prends beaucoup d'essence résineuse, d'essence feuillue, pardon. Je ne prends pas trop de résineux. Mais je ne m'attache pas à représenter une écorce particulière sur une toile. C'est-à-dire que je donne l'impression d'une écorce, mais je ne peux pas dire. Alors certains, par rapport aux couleurs, imaginent des écorces. Il y en a dans notre salle derrière qui sont dans des tons gris-bleus. Les gens y voient des écorces de bouleau, parce qu'effectivement, dans leur imaginaire, quand ils voient un bouleau, c'est gris-bleu, gris-blanc, etc. Mais je ne suis pas parti du bouleau.
Alors, l'idée, vous avez donné un aperçu de la manière dont vous étiez passé à ces pigments naturels. Ces pigments naturels, vous les trouvez où ?
Alors, les pigments naturels, ce sont des terres brutes, en fait, que je ramasse à l'état naturel, puisque la Dordogne offre quand même, au niveau de ses sols, une grosse diversité. Donc, on trouve des ocres qui vont quasiment du jaune jusqu'à l'ocre rouge par rapport aux oxydes de fer. Il y a des carrières dans lesquelles on trouve du manganèse. Il y a des carrières dans lesquelles ils détachent les roches, donc ils coupent avec des grosses roues en diamant, etc. Donc, je récupère cette poudre derrière. Il y a plein de filons avec des couleurs très particulières. Et justement, les gens me disent souvent, vous avez la même gamme chromatique, c'est qu'en fait, ben, je ne sors pas globalement à 80% de ce qu'il y a en Dordogne.
Donc, ce sont souvent la même gamme chromatique que l'art pariétal.
Ben, on pourrait dire ça éventuellement en extrapolant, dans la mesure où effectivement ils se servaient de ce qu'il y avait localement. Donc effectivement, je récupère mes ocres, je récupère mon manganèse, je récupère toutes ces terres-là. Et certains pigments, comme le noir de vigne que j'utilise beaucoup, est un pigment que j'achète parce que je n'ai pas le loisir de le trouver à l'état naturel.
Vous avez dit le noir de vigne ?
Ouais.
Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ?
Ben, c'est un noir qui est très intense quand on le regarde, qui a une intensité pas possible, même par rapport à l'huile ou l'acrylique. En fait, il est fabriqué avec des vieux ceps de vigne qui donnent une espèce de couleur noirâtre et qui donne. C'est un pigment végétal. Alors que j'utilise globalement beaucoup plus les pigments d'origine minérale.
Ce sont des ceps qui sont calcinés avant de produire le.
Mais qui sont broyés. Oui. À l'état naturel, les vieux ceps ont un écoulement noirâtre souvent. Et ces vieux ceps sont utilisés, remaniés, broyés pour en faire une poudre qu'on appelle le noir de vigne.
Très bien. Et alors les blancs, les tons clairs
Les blancs qu'on a sur mes tableaux, c'est souvent la toile que je laisse brute, c'est-à-dire que je ne retravaille pas. Donc c'est le blanc qui revient en transparence. Les autres pigments, toutes les couleurs brunes, c'est les terres naturelles qu'on a chez nous, puisqu'on a des terres très ocres, très brunes, etc. Et quand il y a de la matière, c'est de la poudre de marbre que je remets à l'intérieur de façon à donner de la pigmentation et de retrouver du volume dans ce que je fais.
Le fait que vous ayez une inspiration quasi unique maintenant, est-ce que ça veut dire que vous avez des préoccupations par rapport à l'avenir du monde vivant, végétal ?
Disons que de plus en plus, par rapport à le bouquin que j'ai pu écrire sur la forêt en général et Périgourdine en particulier, notamment sur son avenir, le fait que je travaille sur cette thématique de l'arbre et de son écorce et plus largement de la nature, oui, effectivement, aujourd'hui, je vais de plus en plus vers des expositions qui sont des expositions militantes auprès des écoles, etc., où j'essaie à travers à la fois le bouquin, à la fois les tableaux, les croquis, les dessins, etc., de présenter en plus des panneaux pédagogiques sur la forêt et d'expliquer aux enfants quels sont les différents rôles de la forêt, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui nous est permis de voir, on a l'impression que la forêt, c'est uniquement une usine à bois pour faire de l'argent et récolter de la matière. Alors que c'est pas que ça. Elle a un rôle environnemental incontestable, elle a un rôle social, elle a un rôle de protection. Enfin, elle nous accompagne tous les jours. Et moi, je dis toujours que j'ai travaillé dans les eaux et forêts. Les eaux et les forêts sont quand même deux compagnons de route qui nous sont un petit peu vitales pour notre survie, quoi.
Le silence, la non-violence, le jeu collectif, tout ça, c'est des valeurs que vous partagez.
Bien évidemment, on est tous un peu dans cette même façon de voir les choses. Mais c'est vrai que la nature, de toute façon, regardez, quand on abandonne un secteur, la nature reprend toujours ses droits, de toute façon. Et quoi qu'il se passe, la nature reprendra ses droits d'une façon ou d'une autre. Et je trouve un petit peu dommage qu'aujourd'hui, on s'attache uniquement à sa propre valeur marchande pour en tirer un profit maximum.
Est-ce qu'on peut maintenant, Jean-Claude, faire un petit tour dans les salles d'exposition et pour que vous nous commentiez certains de ces tableaux, que vous initiez nos auditeurs à votre mode d'expression qui est si particulier?
Oui, bien sûr. Le premier qui est juste à côté de la table à laquelle je me situe, c'est un tableau, un des derniers tableaux que j'ai fait, qui est dans un format 80-80, qui est fait uniquement avec des pigments, qui sont des pigments dans les jaunes et dans les ocres en particulier.
Et du noir de vigne.
Et du noir de vigne en fond. Et c'est un tableau qui a été fait avec à peu près 8 à 10 passages successifs d'empreintes, de façon à recréer à la fois une transparence, à la fois du volume, à la fois du relief, comme pourrait le faire une essence normale.
Alors concrètement, comment vous procédez? Vous avez votre tableau, puis vous roulez un tronc dessus?
Non, pas du tout.
Autour du tronc avec
non,
le tableau.
Non, quel que soit le support que j'utilise, c'est-à-dire que ce soit le papier, la toile, le bois ou n'importe quoi d'autre, je fais toujours un fond, qui est en général un fond uniforme, relativement abstrait. Donc sur celui-ci, c'est du noir de vigne, donc c'est un fond noir global, il n'y a pas de superflu. Et après, j'utilise des empreintes, des écorces avec lesquelles je fais des empreintes. Donc je fais une espèce de mixture à base de poudre de marbre, à base de liant naturel, de pigments, etc. Et en fonction de la consistance de ce mélange, qui est plus ou moins granuleux, plus ou moins liquide, quand je reproduis des écorces en faisant des empreintes, ça a un aspect, si c'est très liquide, ça fait un aspect très, très aquarellé, comme certains tableaux ici. Si c'est très dense, ça fait un aspect très pâteux, donc ça donne de la consistance. S'il y a de la poudre de marbre, ça renforce en granulométrie. Et j'essaie de reproduire des choses comme ça, mais à chaque passage, je change d'écorce. C'est-à-dire que ce ne sont pas toujours les mêmes écorces qui travaillent. Donc sur un même tableau, j'utilise par exemple 7-8 écorces différentes qui correspondent à 7-8 passages. Je fais des fois des gros aplats en fond et je travaille par des petits aplats, par des tout petits pointillismes en fin, de façon à recréer des choses différentes au niveau de la texture et du volume.
Alors concrètement, les morceaux d'écorce que vous utilisez, c'est des écorces que vous avez prélevées sur des
écorces. Oui, ce sont des écorces que je récupère sur des bois qui sont par terre, des bois morts, des choses comme ça. J'en ai une grosse collection à la maison. Et si on prend des écorces qui sont planes, eh bien, ça va faire des gros aplats. Si on prend des écorces très rugueuses, très granuleuses, avec beaucoup d'interstices, on va avoir du pointillisme. Et je travaille comme ça pour reproduire des choses différentes. Oui.
Vous avez des préférences parmi les écorces?
Disons que j'ai des noms de préférence, puisque j'utilise rarement le résineux, parce que c'est vraiment un arbre que je n'aime pas.
Vous avez dit tout à l'heure, mais alors, pourquoi?
Parce que il n'y a pas d'âme, quoi, je veux dire.
Trop vite.
Une plantation feuillue avec toute la matière qui tombe au sol, les années successives, etc., ça crée de l'humus par rapport au feuillage qui se décompose. Vous allez dans une forêt de Douglas, vous avez 10 ans d'accumulation d'aiguilles, il n'y a pas d'humus, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien.
Oui, mais enfin, les forêts de résineux monospécifiques, c'est quand même caractéristique du domaine dit tempéré.
Oui, mais c'est fait uniquement avec la main de l'homme et avec la conscience de l'homme qui veut en faire un produit unique.
Il y a quand même des forêts naturelles.
Oui, mais à ce moment-là, il faut que les forêts naturelles, qui sont des forêts dites jardinées, avec des étages différents, des âges différents, ont un comportement complètement différent de celles qu'on nous oblige à avoir aujourd'hui. C'est vrai que quand vous avez une forêt avec plusieurs classes d'âge, avec des semenciers qui donnent des jeunes sujets, quand coupe les grands sujets. Une forêt de Douglas, si on prend un Douglas, par exemple, le Douglas, il arrive à un certain âge, il va pouvoir se reproduire. Donc il suffit d'éclaircir, les cônes vont tomber, les graines vont germer, et on repart sur un peuplement nouveau. Or, aujourd'hui, ce qui nous est donné de voir, c'est qu'on n'attend pas l'âge où l'arbre peut se reproduire, et on les coupe à 35 ou 40 ans. Donc là, on est sur des produits qui sont des produits uniques, qui ne seront pas régénérés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer un engin, on défriche le sol et on replante. On en fait des productions et des plantations comme du maïs, sauf que la rotation n'est pas la même. Les classes d'âge sont importantes parce que y a du sous-étage, il y a du surétage, il y a des arbres dominants, des arbres dominés. La nature fait son travail. Alors que quand vous plantez systématiquement des arbres et qu'on vous dit on va les couper à 25 ou 30 ou 40 ans pour faire de la palette, parce qu'il faut tel volume de bois, etc., on n'est plus dans la forêt, on est dans des plantations d'arbres.
Vous, technicien forestier, vous êtes capable de reconnaître à l'allure de l'écorce, disons à 20 ans près, l'âge d'un arbre?
C'est un peu compliqué parce que si vous prenez certains résineux dans les pays nordiques, même au bout de 100 ou 150 ans, ils vont avoir des diamètres de 25 ou 30 de diamètre parce qu'ils ne peuvent pas pousser plus. Dans nos contrées à nous, le même arbre va faire 90 cm ou 1 mètre. Mais on peut effectivement, la façon dont... Pas forcément à l'écorce, mais à l'aspect général de l'arbre, oui, voir à quelque chose près quel peut être son âge, oui, bien sûr.
Nous allons continuer notre déambulation. Alors là, on voit une sculpture qui représente, on voit effectivement un morceau de bois, un morceau d'arbre, mais qui a subi l'épreuve du feu.
C'est ça. Ben, je ne suis pas sculpteur dans l'âme, mais par moments, quand je trouve des bois brûlés ou des bois flottés, j'essaie de les récupérer. Je n'interviens pas sur un plan humain pour modifier la forme, etc. Je m'attache simplement à les repigmenter, à leur redonner un coup de jeunesse, on va dire. Et je les mets souvent en scène, c'est-à-dire que celui-ci, c'est une écorce qui a un arbre qui a brûlé, donc il est complètement incurvé à l'intérieur. Il y a les traces de noir qui correspondent.
C'est la partie extérieure.
Voilà, c'est ça, qui correspondent effectivement à encore des traces de fumée, de bois. Et comme c'est un bois qui avait été brûlé, j'ai fait un socle en ciment, sur lequel j'ai remis un petit peu des écorces pour donner un peu l'allure d'écorce. Et c'était pour faire le contraste entre le chaud et le froid. Donc j'essaie toujours d'imaginer une espèce de de mise en scène.
Dans le contexte du changement climatique en cours, que tout le monde admet maintenant, sauf quelques illuminés, vous avez des inquiétudes de ce côté-là, du côté du feu, pour la forêt périgourdine ?
De toute façon, plus on va vers des enrésinements, plus on va accroître le risque de feu, bien évidemment. Les forêts feuillues sont beaucoup moins sensibles au risque incendie que les forêts de conifères. Je pense qu'on a du souci à se faire dans les années à venir sur les risques incendies de forêt, y compris en Dordogne. Sans oublier quand même, et ça les gens ne savent pas, que la Dordogne aujourd'hui, le troisième département français en termes de risque incendie, on est au même niveau de risque incendie que la Corse.
Donc en plein milieu méditerranéen, oui. Mais d'ailleurs, on l'a vu au cours des dernières années, avec quand on a commencé à répertorier les départs de feu en été.
C'est ça. C'est tout à fait... On a énormément de départs de feu. La seule différence avec la Corse, par exemple, puisqu'on est au même niveau de risque, c'est qu'on n'a pas des maquis impénétrables comme chez eux, on n'a pas des zones inaccessibles, et nous, on a un territoire qui est bien maillé au niveau des services incendies, etc. Donc les interventions sont très rapides. Et en Dordogne, je crois, sauf erreur de ma part, que le feu moyen, c'est aux alentours d'un demi-hectare, un hectare. Donc même si on a 300 départs de feu, on n'est pas sur des surfaces considérables. Mais imaginons que demain il y ait beaucoup plus de résineux, etc. Il y a 3-4 ans, il y a un gros incendie à côté de Brantôme qui a quand même brûlé, je crois, 150 ou 180 hectares. Il y a les incendies de la Bessène dans les années 70 qui ont brûlé plusieurs milliers d'hectares. Donc ça a quand même déjà existé. Donc,
Nous continuons notre promenade à travers les œuvres de Jean-Claude Noir. Nous allons aller maintenant vers des tableaux au fond plus clairs. Qui sont caractérisés par la présence d'ocre de plus ou moins foncé.
Les tableaux plus clairs, en fait, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur des techniques qui sont plus aquarellées dans l'esprit, donc avec des matières beaucoup plus diluées, donc beaucoup plus transparentes. Donc c'est vrai que par rapport au noir de vigne très intense ou aux aplats de pigments bruts, là, on est sur un travail beaucoup plus... beaucoup plus clair, sur un fond beaucoup plus clair. Et avec là, par exemple, vous avez des marrons qui sont très prononcés. Et en fait, ces marrons-là sont faits... On pourrait penser que c'est du brou de noix. Et en fait, c'est pas tout à fait du brou de noix, c'est fait avec de la gale de chêne. Et pareil, on fait exactement comme pour le brou de noix, on les fait infuser. Ça donne ce côté marron, mais qui est, par rapport au brou de noix, beaucoup plus métallique.
Vous utilisez des teintures comme le thé, par exemple, des choses comme ça?
Oui, le thé, le café, le brou de noix, la gale de chêne, en fait, tout ce qui peut, effectivement, peut me servir.
Alors, quand on voit pour le tableau suivant, ces sortes de séries répétitives, mais dans lesquelles il y a des teintes différentes qui apparaissent à l'intérieur de chaque individu. Ça veut dire que vous avez fait à chaque fois un passage...
Alors, celui-ci, il est un peu particulier par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, je vous disais tout à l'heure que je ne travaillais pas sur une idée préconçue quand je démarrais un tableau. Comme quoi, on ne dit pas toujours la même chose. Et celui-ci, je l'ai travaillé avec une idée bien particulière. J'ai travaillé sur l'idée du déroulage. Quand on fait du déroulage de bois, à chaque tour, le même nœud revient. Et donc ce tableau-là, en fait, quand on prend la rangée du haut, il y a plusieurs coloris, et à chaque descente, et à chaque tour, on va dire, on voit que l'empreinte se perpétue, mais en se décalant. Donc je fais comme si à chaque cours... Ah, donc il y a plus d'accord. une idée de déroulage.
Le déroulage, vous le définissez pour nos auditeurs, qui sont pas familiers avec le contreplaqué.
Voilà, donc le déroulage, eh bien, c'est quand on prend un tronc et qu'on le déroule, c'est-à-dire qu'on le découpe en fines lamelles, et donc ça, on comprend bien que comme l'arbre est circulaire, à chaque tour, eh bien, le même nœud revient, etc., de la même façon. Donc c'est ce que je voulais matérialiser là-dessus par des couleurs. Donc le jaune se déplace à chaque fois d'un cran, le vert, le gris d'un cran, etc. Donc c'est pour donner un petit peu cette idée.
En fonction de la diminution du diamètre.
Exactement, c'est ça.
Nous continuons notre déambulation. Nous allons passer dans l'autre salle. Je voulais alors vous interroger sur ce tableau-là, par exemple, qui est presque figuratif.
C'est ça, c'est un des rares figuratifs. C'est-à-dire que là, j'avais travaillé sur le thème de la tempête de 99. Oui. Et donc, bien que ça soit fait en 2016, c'est des croquis que j'avais après transformés en toile. Et en fait, j'avais reproduit des troncs qui étaient un petit peu isolés, un petit peu, voilà. Et j'ai travaillé avec beaucoup de matière, beaucoup de poudre de marbre, ce qui fait que ça donne un côté granulométrique tout à fait particulier. Et pareil, c'est la même technique, ce sont des empreintes successives, on a l'impression que c'est fait au pinceau, mais ce n'est pas du tout ça, puisqu'on peut travailler différemment, on peut travailler par des aplats, en tirant la matière, etc. Et donc là, j'ai essayé de reproduire des... Ben, on peut assimiler ça à des troncs éventuellement, mais ça peut être aussi des morceaux de bois, etc., qui sont un petit peu isolés,
brisés,
voilà, oui. Qui sont brisés, qui sont abîmés, etc.
Et alors là, le fond, c'est de la poudre de marbre. Fond où il y a beaucoup de pâte. Hein,
oui. Voilà, et donc le fond, c'est uniquement un mélange avec un liant naturel dans lequel j'ai mis beaucoup de poudre de marbre de façon à créer un aspect très très granuleux pour la toile.
Derrière, dans cette sorte d'alcôve là, qui caractérise la deuxième salle d'exposition des Isards, des troncs qui paraissent être des troncs de bouleau.
Alors effectivement, vu la couleur, on pourrait les assimiler à des troncs de bouleau, puisque c'est dans les troncs gris-bleu, mais c'est exactement le même tableau que celui qu'on vient de décrire précédemment. On est sur un tableau un peu plus grand avec quatre troncs qui sont insérés dedans. Un fond beaucoup plus jaune, avec des couleurs beaucoup plus chaudes, puisqu'on retrouve des couleurs un petit peu orangées, alors que l'autre est beaucoup plus sur des teintes marron, un peu plus foncées, on va dire.
Presque jusqu'au verdâtre.
C'est ça. Donc c'est pareil, c'est la même technique, sauf qu'on est sur des aplats complètement différents, des écorces différentes. Et c'est vrai que les trois qui sont dans cette espèce de petite niche sont beaucoup plus figuratifs que les autres. C'est pour ça que je les ai mis un petit peu dans ce petit coin, puisqu'il déparait un peu avec le reste de l'exposition.
Coexistant avec ces tableaux qui sont effectivement plus proches du figuratif, on a des choses tout à fait abstraites là, avec des couleurs étonnantes si on pense que vous utilisez des pigments naturels, parce que là on a carrément du rouge, et ça c'est...
Alors,
c'est une exception ou bien...
Non, c'est pas une exception. C'est-à-dire que ça, ce sont des travaux que j'ai faits sur papier, qui sont collés, qui sont marouflés sur des supports beaucoup plus rigides. Et la plupart des travaux que je fais sur papier ou sur carton, en fait, sont pas faits avec des pigments naturels, sont faits avec des encres naturelles. Donc, j'ai des coloris un petit peu plus différents. C'est-à-dire que je retrouve des orangés, je retrouve des choses comme ça, des marrons un peu différents de ce que j'ai en pigments naturels. Donc, tout ce qui est sur papier, support cartonné, ce sont des encres parce que les mixtures que je fais ne correspondent pas trop bien à la texture du papier pour faire les impressions, donc je préfère faire les encres, ça fait un peu plus buvard et c'est plus intéressant au niveau du rendu. L'avantage du pigment par rapport à l'huile et l'acrylique, c'est qu'en fait le pigment est un capteur de lumière, donc s'il fait qu'un tableau qui est fait avec des pigments quasiment bruts comme les miens, dès qu'on le met sous un spot, on a l'impression de voir plein de petites lampes LED qui brillent tellement que le pigment capte la lumière. Donc ça, c'est une première chose. Après, oui, j'ai eu un problème, parce qu'au début, je vous disais que je faisais du pastel. Donc le pastel, c'est confortable, on encadre, on ferme et c'est fini. Quand j'ai voulu transposer cette technique sur toile, parce qu'effectivement, les galeries n'aiment pas trop les travaux sous verre, parce qu'on se voit dedans, c'est beaucoup plus fragile et tout. Donc j'ai voulu transposer ma technique sur toile et je me suis aperçu que j'ai eu beaucoup de déchets au départ, parce que comme je fixe un minimum à la fin, Le fixatif que j'utilisais faisait recouler mes pigments et j'avais beaucoup de déchets parce que ma toile se dénaturait complètement. J'ai pris la tâche du conservatoire des ocres à Roussillon, qui est un conservatoire où il y a quasiment tous les pigments du monde regroupés à la fois par continent, par pays, etc. Et je leur ai demandé, je leur ai expliqué un peu mon truc, et puis bon, ils ont éclaté de rire, et bien ils m'ont dit heureusement qu'à chaque fois qu'on fait des façades de maison en couleur chez nous et qu'il pleut, la couleur n'est pas toute dans les caniveaux, sinon ça serait un beau bazar. Et en fait, ils utilisent des fixatifs à chaud. H-O, c'est H-A-U-X, hein, pas H-O-A-U-D. Donc, et c'est un produit dont ils ne veulent pas dire la composition, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est peut-être le seul produit que je n'ai pas de naturel dans mes tableaux. Voilà, donc j'en mets un tout petit peu dans mes tableaux et ça me permet sur la toile, par rapport à ce fixatif-là, de fixer mes pigments sur la toile.
Donc ça, c'est une originalité supplémentaire, technique,
aussi,
de votre travail. On va revenir, puisque le temps passe, à ce que nous évoquions tout à l'heure, à savoir l'avenir du végétal. Est-ce que vous êtes vraiment pessimiste sur ce qui est en train de se passer sur la Terre?
Je ne suis pas d'un tempérament pessimiste, mais je suis d'un tempérament très réaliste. C'est-à-dire que je vois effectivement ce qui se passe. Je pense être en capacité, comme beaucoup d'autres, de l'analyser. Et je me dis qu'effectivement, après, il y a des choses qui sont inéluctables dans la vie. Le changement climatique, il est évident.
Oui, il y a eu d'autres extinctions.
Mais bien sûr. Il va falloir s'adapter aux différents changements. Je veux dire, il y a 20 ans, on n'aurait jamais mis des oliviers partout en Dordogne. Aujourd'hui, les oliviers, à chaque fois qu'on fait une maison neuve, il y a quasiment un olivier devant, quoi. Donc, ça fait partie de ces changements-là. Le châtaignier est en train de dépérir aujourd'hui. Pas que pour des aspects climatiques, mais aussi pour des aspects climatiques. Bon, on est sur des ensouchements très vieux, etc. Il y a plein de choses qui interfèrent, avec plein de paramètres différents. Mais je pense qu'il va falloir effectivement s'adapter, mais s'adapter, ça ne veut pas dire s'adapter pour le mode économique. On peut très bien s'adapter en tenant compte de l'écologie, de la biodiversité, tout en maintenant ce genre de choses-là, alors qu'aujourd'hui, on est parti sur... J'ai l'impression aujourd'hui, un petit peu, qu'on se sert du prétexte de changement climatique pour nous imposer des essences qui n'ont qu'une valeur économique. Et c'est ça qui me gêne surtout. Parce qu'on pourrait, à mon avis, faire beaucoup d'autres choses, mais c'est un prétexte. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'enlever en Dordogne quasiment tous les taillis de châtaigniers, entre guillemets, dépérissants, mais qu'on les remplace systématiquement par des plantations de pins maritimes. Donc, ce n'est pas innocent non plus.
Vous pensez que quand il y a un taillis de châtaignier recépé, ça repousserait et ça finirait par donner des individus de la taille de ceux qu'on voyait quand on faisait toutes les charpentes, ou la moitié des charpentes en châtaignier.
Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que ce qui est dépérissant, ce sont les taillis de châtaigniers. Donc les taillis, c'est quoi? Ce sont des brins qui repoussent d'après une souche initiale, mais les CP qu'on a aujourd'hui sont des CP extrêmement vieilles. Donc on le voit, les CP sont très larges, et quand elles se développent très larges, comme des parapluies, ça veut dire qu'elles sont très âgées. Et comme tous les êtres vivants, plus on est âgé, plus on souffre de maladies, plus on est sensible à plein de choses. Aujourd'hui, les CP sont très vieilles, l'ensouchement est très vieux, et effectivement, les taillis sont malades et fatigués. Mais je vous engage simplement à faire un tour en forêt barade, où il y a quand même beaucoup de châtaigniers. Quand on sait regarder, on voit qu'à partir de châtaignes, il y a énormément de rejets naturels qui se font, de francs de pied, comme on appelle, c'est-à-dire qui poussent à partir d'une graine, et il y en a des milliers à l'hectare. Donc moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, au lieu de tout mettre par terre et de planter des pins, pourquoi on ne s'attacherait pas simplement à retravailler sur ces semis naturels pour repartir sur des arbres nouveaux? Et à ce moment-là, on n'aurait plus ces problèmes phytosanitaires liés aux ensouchements qui sont trop vieux et dépérissants.
Jean-Claude Noir, merci beaucoup de nous avoir fait naviguer comme ça entre l'art et la nature, entre l'art et l'arbre et la forêt qui vous est si chère. Et bonne chance pour la suite de vos réalisations, de vos créations si originales.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un...
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté. Ma dernière chemise.
Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance.